Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Marc 9, versets 42 jusqu'à la fin du chapitre. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Maintenant, on va prendre l'Apocalypse, chapitre 18, les versets 20 à 24. Réjouis-toi sur elle, ciel, et vous aussi les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta à la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On n'y trouvera plus aucun artisan d'un métier quelconque, et on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe n'y brillera plus, et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendue. Car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes sortilèges. Et on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Jusqu'ici.
Sans sel, tout est fade. Et sans l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est fade. Quelle grâce de savoir que le Saint-Esprit existe et qu'il agit en faveur de ceux qui cherchent Dieu. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur un texte qui n'est pas facile. Vous vous êtes rendu compte dans la lecture. Et certains ont compris pourquoi je disais qu'il fallait bien prier pour moi, pour préparer tout cela. Mais je l'espère que ce texte nous montrera la grandeur du salut de Jésus-Christ. Le salut, c'est être sauvé de quelque chose. Et nous verrons que cette chose est horrible, tellement terrifiante que lorsque l'on en devient consciente, nous voulons y échapper. Un peu comme lorsque nous comprenons que nous sommes face à un chien enragé. Qu'est-ce qu'on a envie? C'est de fuir et de faire tout ce qui est possible pour qu'il ne nous atteigne pas. Alors remettons-nous dans le contexte de l'évangile selon Marc ou du journal de Pierre écrit par Marc. Nous suivons donc chaque dimanche ce journal qui retrace l'histoire de Pierre qui a vécu avec Jésus-Christ. Pierre a été témoin du baptême de Jésus où il a vu l'Esprit-Saint descendre sur lui comme une colombe et il a entendu la voix de celui qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Pierre a été témoin de nombreuses guérisons faites par Jésus et il les a faites par compassion. Jamais quelqu'un n'a payé Jésus pour recevoir un miracle. Jésus l'a fait par compassion. Pierre a vu des miracles comme la multiplication, la tempête apaisée qui démontraient la divinité de Jésus-Christ. Pierre était témoin des histoires illustrées que Jésus racontait, comme la parabole du semeur, la parabole de la lampe et d'autres. Pierre a même vu Jésus transfiguré, enfin métamorphosé pendant un instant, dans une gloire qu'il n'avait jamais eue. Et Pierre a aussi été témoin d'enseignements, d'avertissements que Jésus donnait à ses disciples. Et c'est de ce dernier sujet que nous allons parler ce matin. En fait, la situation a commencé lorsque Jésus est arrivé à Capernaum. Il a demandé à ses disciples « De quoi avez-vous parlé pendant qu'on marchait ensemble ?» Et les disciples avaient eu honte. Parce qu'ils avaient parlé entre eux, ils s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand. Et ensuite même, un disciple a dit qu'ils avaient empêché quelqu'un de chasser des démons au nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'était pas avec eux. Ça, c'était le départ de cette situation. Et Jésus a pris le temps de les corriger avec amour, vérité, avec douceur et audace. D'abord, il leur dit que celui qui veut être le premier, eh bien, c'est que celui-ci soit le serviteur de tous. Parce que la grandeur dans le royaume de Dieu, c'est servir. La grandeur dans le royaume de Dieu, c'est servir. Alors, juste déjà en passant, les enfants aussi, ne réfléchissez pas à ce que votre frère, votre sœur devrait faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour eux. C'est ça, la grandeur dans le royaume de Dieu. Et de le faire au nom du Seigneur. Ensuite, Jésus a parlé de l'accueil. Dans le royaume de Dieu, et là, une petite parenthèse, je rappelle que l'Église est l'ambassade du royaume de Dieu, dans laquelle nous vivons déjà, nous cherchons à vivre comme dans ce royaume. Donc, dans le royaume de Dieu, lorsque nous accueillons le plus méprisé, le plus petit au nom de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que nous accueillons. Dans le royaume de Dieu, lorsque nous accueillons les plus méprisés, le plus petit au nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ que nous accueillons. Donc dire bonjour avec chaleur à chaque personne au nom du Seigneur Jésus, c'est à Jésus que vous dites bonjour quelque part, que vous accueillez. Vous vous rappelez, un disciple a dit qu'ils avaient empêché quelqu'un de chasser les démons au nom de Jésus. Eh bien Jésus leur avait répondu en quatre temps, il ne faut pas empêcher quelqu'un qui fait des miracles au nom de Jésus. Ne l'en empêchez pas. Deuxièmement, celui qui n'est pas contre nous, ou qui ne dit pas du mal de Jésus, est pour nous. Troisièmement, la plus petite chose que nous faisons à un enfant de Dieu est récompensée. Et quatrièmement, un terrible avertissement pour ceux qui font pécher un enfant de Dieu, ou qui pêchent eux-mêmes en terminant par un enseignement sur la souffrance et la paix. En fait, les trois premiers sujets que Jésus aborde ici pour répondre, eh bien, nous les avons déjà vus la dernière fois, le mois passé. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le quatrième élément, qui est ce terrible avertissement dont parle le texte d'aujourd'hui. Ce texte, comme nous l'avons déjà entendu, parle de jeter quelqu'un à la mer avec une pierre attachée à son cou. Il est question de couper une main, un pied ou arracher un œil. Comment une personne incroyante et non guidée par le Saint-Esprit peut-elle comprendre ce texte ? Alors, c'est certainement pas la seule manière de comprendre possible, mais elle pourra sûrement y voir une grande violence et se révolter contre ce que dit Jésus. Vous vous rendez compte ? Il dit de jeter quelqu'un au fond de la mer avec une pierre à son cou simplement parce qu'il scandalise un jeune croyant. C'est monstrueux. Ou encore de couper une main, un pied ou de s'arracher un œil pour éviter de se faire plaisir, même si cela ne plaît pas à Dieu. C'est carrément grotesque et horrible. Et en plus, si chaque fois que je fais ce que Dieu considère comme une faute, je devais enlever un œil, couper une main ou couper un pied, ça fait longtemps que je ne verrai plus rien, que je ne pourrai plus rien faire et que je ne me déplacerai plus. Un incroyant dirait ici Jésus a perdu la tête. C'est une preuve que la Bible est bizarre, qu'elle est barbare et qu'elle doit être écartée. C'est une pensée possible de l'incroyant. Et pourtant, il devrait être attentif à ce texte. Mais ce texte peut aussi être mal compris par le croyant qui ne saisit pas vraiment l'implication de l'évangile dans sa vie. Il pensera qu'il doit être parfait, sans défaut pour parler aux autres, parce que ce n'est que quand il est parfait qu'il ne sera pas une occasion de chute pour les autres. Mais c'est oublier qu'il vit dans un monde déchu. Un monde déchu, ça veut dire un monde où il y a du mal. Et il continue à vivre dans un corps de chair marqué par le péché. Et en fait, en cherchant à vivre parfaitement, il devient une occasion de chute, en faisant croire qu'un chrétien doit être parfait, et encouragera le jeune croyant à cacher ses fautes, à s'auto-justifier continuellement. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Le croyant qui n'a pas compris l'évangile dans son quotidien pensera qu'il faut couper, arracher les choses qui le font tomber pour arriver à ne plus pécher par lui-même. Ce texte de la main, du pied, de l'œil à enlever sera jour après jour dans sa tête pour couper, jeter, détruire tout ce qui le poussera à pécher pour montrer au Seigneur comme c'est un bon chrétien. Mais ce n'est pas l'évangile. Bon, alors comment lire ce texte avec l'évangile? Eh bien, nous allons réfléchir à trois éléments en suivant le texte. Le premier, le plus petit de ceux qui croient a une valeur inestimable. Le plus petit de ceux qui croient a une valeur inestimable. Deuxièmement, la sainteté vaut mieux que nos membres physiques. La sainteté vaut mieux que nos membres physiques. Et troisièmement, l'épreuve est un outil dans la main de Dieu. Jésus est indigné par le péché. Ça, faut comprendre que Jésus est indigné par le péché, par les conséquences sur les autres et sur soi-même. Et il veut faire comprendre aux disciples ce qui est vraiment précieux ici dans ce texte. Voilà pourquoi le titre de cette prédication est « Ce qui est précieux pour Jésus ». Alors, revenons dans Marc, prenez vos Bibles, et nous allons lire les versets 41 et 42. Donc, je relis le verset précédent, aussi 41, pour nous remettre dans le contexte direct. Et quiconque donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Au verset 41, il était dit qu'une petite chose donnée au nom de Jésus, comme un verre d'eau, à un croyant avait une récompense, une grande récompense. Cela souligne la préciosité du croyant. Pour Jésus-Christ, le croyant est très, 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 très précieux. Il est en Christ. Et le verset 42 dit que même le plus petit croyant, celui qui est le plus jeune dans la foi, qui n'a même pas d'expérience, est très précieux. Très précieux. Pour Jésus, le petit qui croit a une si grande valeur que être une occasion de chute, un piège pour sa foi, est pire que mourir. Donc, jeter dans la mer avec une pierre au cou, qui était une mort terrible. Hein. Pour les Juifs, ne pas avoir de sépulture, c'était juste complètement horrible. Mais pour Jésus, le petit qui croit a une si grande valeur que être une occasion de chute, un piège pour sa foi, est pire que mourir. Le plus petit croyant, et donc tous les autres croyants aussi, sont précieux. Et chaque disciple devrait les chérir de telle manière à ce qu'ils puissent grandir en maturité. Si quelqu'un commet un péché devant le jeune croyant, qu'il se repente. Alors le jeune croyant voit la puissance de l'évangile, et lorsque lui-même péchera, il va aussi se repentir. Vous savez, être une occasion de chute ou un piège pour la foi, hein, c'est ce que signifie le terme, c'est un terme qui revient ici dans l'original, c'est scandalizo, comme ça vient de scandale, hein, qui revient tout le temps ici, mais ça signifie d'être une occasion de chute, un piège pour la foi, c'est en fait rester dans son péché, le cacher, chercher à le justifier, s'y habituer et vivre comme si c'était normal. C'est cela, chuter et être une occasion de chute. Car le jeune croyant pensera alors que c'est juste de pratiquer ce péché. Voyez ? Donc être une occasion de chute ou un piège pour la foi, c'est rester dans son péché, le cacher, chercher à le justifier, s'y habituer et vivre en le considérant comme normal. C'est cela, chuter et être une occasion de chute, car le jeune croyant pensera alors que c'est juste de pratiquer ce péché. Au verset 42, Jésus veut faire prendre conscience aux disciples par une hyperbole. Oh, c'est quoi une hyperbole? Une hyperbole, je ne vais pas dans les détails, hein, mais c'est une image exagérée. Alors, par une image exagérée, il veut démontrer la préciosité du petit qui croit. Jésus ne donne pas une loi à suivre ici. Il dit « il vaudrait mieux » qui indique un contraste, pas un ordre. Ok? Parce que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui mettra la meule au cou, ou bien qui jettera comme une meule au fond de la mer, comme on l'a vu dans l'Apocalypse, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, où il jettera Babylone au fond de la mer. Il ne s'agit pas de mettre une pierre de meule au cou de chaque personne qui scandalise un jeune croyant et de le jeter au fond du lac, mais plutôt un appel à la repentance lorsque l'on pêche, afin de ne pas devenir un scandale. Parce que le jeune croyant est si précieux. Il est si précieux. Si vous êtes motivé à vous repentir pour être purifié vous-même, c'est bien. Mais vous pouvez aussi être motivé de vous repentir pour que l'autre ne pêche pas. Et nous pouvons nous repentir pour recevoir le pardon. Car Jésus, quelque part, a été jeté au fond de la mer avec une meule à son cou par son sacrifice de cette mort ignoble qu'il a vécue à la croix. Il l'a vécue pour nous. Les disciples voulaient être les plus précieux, les plus en vue, et écarter toute personne de leur chemin. C'est de là que c'est parti tout ça. Et Jésus leur enseigne à voir même le plus petit, le plus inexpérimenté, comme précieux, plus précieux même que leur vie. Et non seulement Jésus l'enseigne, mais il le vit parfaitement, en accueillant même les plus méprisés. Le deuxième élément, avec la main, les pieds et l'œil, concerne la préciosité et l'importance de la sainteté. C'est notre deuxième point. La sainteté vaut plus que nos membres physiques, et je vous invite à replonger dans le texte de Marc 9, on relit les versets 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ce n'est pas une place d'honneur qui doit être convoitée. C'est une vie qui plaise à Dieu qui doit être recherchée. En fait, arriver manchot, donc avec une seule main, ou boiteux avec un pied, ou borgne avec un œil dans le royaume de Dieu, en fait, c'est pas là le problème. En fait, on recevra un nouveau corps. C'est pas là la question. D'autre part, enlever un membre n'enlèvera pas le péché. Et la mutilation physique personnelle n'est jamais demandée par Dieu, qui demande le respect du corps qu'il a créé. Non, le problème, c'est de voir nos capacités, nos moyens comme étant plus précieux que la sainteté. Les capacités nous sont données pour vivre la sainteté. La sainteté n'est pas donnée pour profiter personnellement de nos capacités. Nous ne sommes pas entrés dans notre royaume en devenant enfants de Dieu. Nous sommes entrés dans son royaume en devenant enfants de Dieu. Et Jésus, afin de montrer le sérieux de vivre une vie qui plaise à Dieu, parle de l'enfer ici. Bon, c'est pas la mode, c'est vrai. Et le non-croyant me dirait, mais arrêtez avec ces idées moyenâgeuses qui ont fait peur pour obtenir des choses des gens. Mais, cher incroyant, si l'enfer existe, n'est-il pas normal que nous en parlions? Même si malheureusement, parfois, cela a été instrumentalisé pour autre chose qu'une vie sainte selon Dieu et selon sa parole. C'est vrai que le croyant qui n'est pas au clair avec la grâce et la personne de Dieu aura du mal avec cet enfer. Il se dira, mais Dieu aime, il ne peut pas faire cela. Il n'écoutera donc Jésus que d'une oreille lorsqu'il parle d'enfer. Et des textes comme aujourd'hui, bon ben voilà, on le lit, ben ça fait partie, puis ensuite on passe à autre chose. Pourtant Jésus est celui qui donne le plus de descriptions pittoresques de l'enfer. Il parle d'une fournaise ardente, d'un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il évoque même un malheureux qui demande de façon suppliante une goutte d'eau juste pour être un petit peu rafraîchi. Des êtres jetés dans les ténèbres du dehors, exclus de la félicité dont jouira le peuple de Dieu. Et il n'hésite pas d'ailleurs à établir une séparation très nette et irréversible entre les hommes. Il est dit dans Matthieu 25, « Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Si nous n'arrivons pas à voir l'enfer comme un horrible endroit de tourment, où le péché est poussé à son maximum sans mourir, ou en agonie mortelle permanente, si vous voulez, c'est que nous ne saisissons pas l'horreur du péché. Si nous n'arrivons pas à voir l'enfer comme un horrible endroit, c'est que nous ne saisissons pas l'horreur du péché. Et Jésus est indigné par le péché, comme personne d'autre, lui le parfait. Voilà pourquoi il utilise l'image exagérée et si forte de la mutilation de parties si précieuses de notre corps. Qui ne met pas de valeur ici à ses yeux, à ses mains ou à ses pieds? Personne ne désire les perdre. Pourtant, Jésus dit qu'il y a plus important et plus grave. Est-ce que nous saisissons que le péché mène à la géhenne? La géhenne, c'est le terme utilisé ici, c'est une image très vivante pour les disciples en fait, pour les auditeurs de Jésus, une image de l'enfer très vivante. Parce que ça fait référence à une vallée près de Jérusalem où l'on passait les enfants vivants par le feu en sacrifice au dieu Moloch. Ce culte a heureusement été aboli, mais à la place, c'est devenu un lieu où l'on met les déchets, les détritus, les cadavres d'animaux rongés par les vers et le tout baigné dans un feu permanent. Donc l'image était très forte. Ils avaient une notion de ce que cela signifiait. Et le ver qui ronge en permanence illustre le tourment intérieur, tout ce qui ronge à l'intérieur, le regret éternel. Le feu illustre le tourment extérieur, les souffrances externes, la colère éternelle de Dieu. Et cette image est directement tirée du dernier verset du prophète Ésaïe, qui parle du jugement et de la colère de Dieu. Où il est dit, Ésaïe 66, 24, « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard, car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Si nous ne saisissons pas un peu l'horreur de l'enfer, nous ne désirons pas tout faire pour y échapper. Mais si nous saisissons un peu l'horreur de ce lieu, nous ferons tout et nous nous séparerons de tout ce qu'il faut pour ne pas y aller. Si je vous disais, on va faire une petite imagination, c'est pas facile là d'imaginer, mais une pièce de 9 mètres carrés, c'est plus petit qu'ici, la moitié d'ici, ok? On vous dit que vous allez vivre toute votre vie dans une pièce de 9 mètres carrés qui sent horriblement le purin, qui passe brusquement de 50 degrés à moins 10 degrés toutes les 4 heures, avec une lumière qui clignote de manière continuelle, et tout ce que vous touchez vous pique horriblement, vous marchez constamment dans un liquide gluant, sans pouvoir vous asseoir et vous coucher, et il est impossible de penser à autre chose qu'à vos péchés et aux péchés des autres. Et l'on vous dit qu'il est possible d'éviter ce lieu si vous donnez ce que vous aimez le plus qui vous appartient. Que feriez-vous? Jésus a tellement bien saisi ce qu'est l'enfer qu'il n'a pas seulement donné son œil, sa main, son pied, mais son corps tout entier, tout son sang, pour sauver de l'enfer tous ceux qui se détournent du péché par la repentance et qui croient en lui. C'est ça que Jésus a fait. Il n'a pas seulement donné un œil, une main ou un pied, mais tout son corps, tout son sang, pour sauver de l'enfer ceux qui se détournent du péché par la repentance et qui croient à son œuvre. Nous n'avons pas besoin d'arracher nos mains, nos yeux, de couper notre main ou de couper un pied pour éviter l'enfer. Jésus a déjà donné tout son corps. Par contre, nous comprenons l'importance que Jésus donne d'éviter le péché. Particulièrement quand les disciples voulaient avoir la première place et écarter toute autre personne. Nous serons donc prêts à couper des sites, des chaînes TV ou Internet qui nous font chuter, à refuser un avancement professionnel avantageux financièrement, mais qui nous fait mentir et tromper les autres. Nous serons prêts à renoncer à des amis s'ils nous poussent à pécher. Nous serons prêts à renoncer à des choses de valeur si elles nous poussent à pécher. Mais nous ne le ferons pas pour gagner notre place dans le royaume. Mais parce que Jésus nous a sauvés de l'horrible enfer causé par le non moins terrible péché. Nous voulons toujours plus avoir le péché en horreur pour ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Et Jésus termine en expliquant à ses disciples qui recherchent la gloire par la facilité et que la souffrance est écartée. Ils veulent être les premiers simplement en écartant les autres. Jésus termine en expliquant à ses disciples que la souffrance fera partie de leur cheminement et que chacun est appelé à vivre dans la sainteté. C'est notre troisième point. L'épreuve est un outil dans la main de Dieu. Nous relisons les versets 49 à 50 ou 51 selon les versions. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. L'auteur utilise ici un élément mnémotechnique, pédagogique, de termes qui rebondissent les uns les autres. Et ce n'est pas toujours facile parce que nous, on veut faire des liens avec tous les termes, avec toutes les significations. Et tout homme sera salé par le feu est une expression qui m'a vraiment fait transpirer. Et je me suis rendu compte avec tous les commentaires qu'il y a bien des façons de voir cette expression. Donc je vais vous livrer une conclusion sans être sans prétention et conscient que d'autres éclairages sont aussi valables. Mais le contexte, c'est la discussion de Jésus avec ses disciples, où il parle de péché avec l'intention de les faire grandir dans la sainteté. Et dans ce contexte, salé de feu peut être compris comme étant une œuvre de purification par la souffrance. Le sel et le feu ont en commun, en fait, comme dans la symbolique, la purification. Le feu purifie, le sel purifie. Et Pierre, qui est à l'origine de ce journal, écrira dans son épître, dans sa première épître, ceci. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. L'épreuve, un moyen de progrès. En fait, tout homme passe par la souffrance. Tout homme qui vit plus que quelques heures, à un moment donné, va passer par la souffrance, soit par un décès à côté de lui, soit par lui-même dans une situation difficile, etc. Tout homme passe par la souffrance à un moment donné de sa vie. Tout homme est salé de feu. Et pour le croyant, c'est un moment prévu pour le progrès. C'est un moment prévu pour le progrès. Prendre des décisions pour Christ peuvent être coûteuses et amener à la souffrance. Pour certains, c'est même la prison. D'autres, le rejet de leur famille. Pour d'autres encore, le mépris. Si quelqu'un dit être chrétien et n'a jamais pris de décision coûteuse à son niveau pour Christ, soit il est tout au début de la vie de sa foi, soit il doit se demander si sa conversion est authentique. Parce que vivre pour Dieu, c'est renoncer à soi et se consacrer totalement à Christ et à son évangile. D'ailleurs, en passant, Jésus-Christ était sans péché. On est d'accord. Pourtant, il est dit dans Hébreux 5:8 qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. La souffrance est un outil dans la main de Dieu. Concernant le sel, j'aimerais simplement vous lire la note dans la Bible Nouvelle que je trouve intéressante, donc je vous la livre. Je suis un transmetteur. Le sel illustre trois caractéristiques qui doivent être présentes chez le disciple de Christ. Premièrement, ceux-ci doivent d'abord se souvenir de la fidélité de Dieu tout comme le sel versé sur un sacrifice rappelait l'alliance de Dieu pour son peuple. Hein, Lévitique 2 nous dit que sur chaque sacrifice, il y avait du sel qui rappelait l'alliance de Dieu. Hein, voilà un premier élément du sel. Deuxièmement, leur présence doit faire une différence, contribuer à donner de la saveur au monde qui les entoure, tout comme le sel relève de la saveur des aliments. Et troisièmement, par leur présence, ils doivent faire obstacle à la corruption morale de la société, tout comme le sel préserve des aliments de la putréfaction. Et tant qu'il y a des chrétiens dans le monde, eh bien, la corruption morale doit être freinée, sinon c'est qu'il n'y en a pas. Le sel perd sa saveur, en fait, quand il est mélangé. En Israël, on prenait du sel à la mer morte. Et quand on prenait ce sel, il était parfois mélangé au gypse, ou enfin à du plâtre, en fait. Et quand il était trop mélangé, en fait, il avait servi à rien du tout. En fait, il faut éliminer tout ce qui n'est pas du sel. Il faut éliminer tout ce qui n'est pas du sel et qui lui est mélangé pour qu'il donne de la saveur. Comme nous sommes appelés à éliminer le péché et toute emprise du monde dans notre vie. C'est en lien avec tout ce qu'on a vu dans ce texte. Nous sommes appelés à éliminer le péché, toute emprise du monde de notre vie, pour que le sel ne perde pas sa saveur dans nos vies. Et le verset 50 est synonymique. Les Juifs avaient l'habitude de répéter deux fois un même concept avec des mots différents. Nous en voyons beaucoup dans les proverbes. Hein. On a une phrase, puis ensuite une autre phrase qui reprend une même notion. Et bien ici, on est dans la même notion. Il est dit « Ayez du sel en vous-même » et ensuite, le parallèle avec la même idée, « Soyez en paix les uns avec les autres ». Avoir du sel, c'est être en paix. Et cela conclut la discussion de Jésus avec ses disciples qui voulaient la première place, qui écartaient toute personne qui voulait prendre leur place. Alors pour conclure, j'aimerais vous donner deux phrases. C'est des phrases denses, où il y a beaucoup de choses dans la même phrase. Alors voilà, il faut juste se concentrer, si jamais elles sont écrites aussi sur les petits papiers, pour les prendre avec vous. Mais c'est juste deux phrases pour terminer. Premièrement, vivre en éliminant le péché motivé par la sainteté, qui a plus d'importance et de valeur même que nos vies ou nos membres, produira la paix les uns avec les autres, car toute relation épurée du péché est toujours paisible. Je vais peut-être la relire. Hein. Vivre en éliminant le péché motivé par la sainteté, qui a plus d'importance et de valeur que même nos vies et nos membres, produira la paix les uns avec les autres, car toute relation épurée du péché est toujours paisible. Et deuxièmement, et ça c'est notre indicatif, hein, l'impératif, l'indicatif, Jésus est mort d'une mort autant ignoble qu'une noyade avec une pierre au cou. Jésus a donné ses mains, ses pieds, ses yeux, tout son corps, afin que nous soyons libérés du péché et que nous ayons la même notion de la valeur des croyants et de la sainteté que lui. Jésus est mort d'une mort autant ignoble qu'une noyade avec une pierre au cou. Jésus a donné ses mains, ses pieds, ses yeux, tout son corps, afin que nous soyons libérés du péché et que nous ayons la même notion de valeur que lui, des croyants et de la sainteté. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin nous tournons nos regards vers toi en te priant de nous guider vraiment pour comprendre cette parole. Nous n'arrivons pas vraiment à comprendre l'horreur du péché comme Jésus a pu la comprendre, lui qui était pur, lui qui était sans tache. Lui qui, chaque fois qu'il voyait le péché, était dans un contraste face à ce que lui vivait. Mais j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à justement comprendre combien tu es pur, combien Christ est pur, afin que lorsque nous péchions, nous voyons ce contraste, que nous soyons indignés face au péché, que nous soyons tellement indignés que nous pouvons utiliser des images tellement fortes qui sont même choquantes, parce que le péché est vraiment horrible. Parce que le péché, non seulement est horrible en lui-même déjà, mais il conduit à la peine éternelle, à la géhenne, à l'enfer. Et j'aimerais, Seigneur, te prier vraiment de nous aider à saisir cela. Non pas pour que notre vie soit conduite par une peur, par une crainte, par un désir simplement de fuir quelque chose de si dramatique, mais que nous ayons, Seigneur, en nous, l'horreur du péché. J'aimerais vraiment, Seigneur, te prier de nous donner cette grâce, de saisir cela, de saisir aussi la situation terrifiante de ceux qui ne se repentent pas. Afin, Seigneur, que nous ne puissions plus regarder les personnes dans les yeux autour de nous qui ne te connaissent pas sans leur parler de toi. Parce que leur fin est terrible sans toi. Donne-nous cette grâce, cette motivation, Seigneur, à trouver tous les moyens possibles pour parler de toi, afin que les gens puissent se tourner vers toi. Nous prions que tu agisses dans leur cœur. Nous croyons que ton appel est efficace. C'est pour ça que nous te prions, Seigneur, d'agir puissamment dans les cœurs. Et je te prie de nous donner aussi de l'amour pour la sainteté, ce désir de vivre d'une manière qui soit belle à ton image et qui nous permettra de vivre aussi nous-mêmes dans la paix. Dans la paix avec toi, dans la paix avec les autres et même dans la paix avec nous-mêmes. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.